vous êtes toujours sur les ondes de CFAQ avec moi, votre animatrice en cette belle matinée qui s'en vient quand même assez ensoleillée. Là, je suis pas toute seule, je suis en compagnie de Jérémy Savard. Salut Jay, ça va bien ce matin?
Ça va super bien, puis en effet, là, je pense qu'on va atteindre peut-être un petit 10 degrés aujourd'hui. Là, je pense.
Ben moi, je croise les doigts, là, j'ai regardé la météo et ça annonçait un petit 14 degrés. Alors,
14, mon Dieu!
C'est le temps d'aller courir dehors, là, vraiment. Donc là, Jay, t'es venu nous parler de quoi ce matin?
Je viens faire une petite chronique là, assez courte. Là. On garde ça short and sweet. Je l'ai nommé un Amérique fasciste, point d'interrogation, parce que vous ne le voyez pas, évidemment. fait que, ouais, c'était dans le cadre d'un de mes cours. Il fallait choisir un mot qui était débattu dans l'actualité. Et ce mot-là, je me suis dit, on qualifie souvent, on a vu que les États-Unis étaient qualifiés de fascistes. OK, mais tu sais, moi, quand que je dis fascisme, je pense à nazisme, je pense à Hitler, l'Allemagne nazie, je pense à Mussolini. Puis je me dis, les États-Unis, c'est... Oui, il y a des tendances antidémocratiques, effectivement, mais c'est pas un État totalitaire. Trump reste... qui a été élu, Hitler aussi, là, mais...
bon!
Tu sais, c'est ça. Donc, je voulais explorer la question, est-ce que c'est l'Amérique peut être réellement fasciste? L'ONU qualifie le fascisme de toutes les idéologies et pratiques totalitaires ou autres fondées sur l'exclusion, l'intolérance raciale ou ethnique, la haine, la terreur, le déni systématique des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou ayant de telles conséquences qui peuvent compromettre la paix mondiale et constituer des obstacles aux relations amicales entre les États et à la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mais là, on n'est pas loin d'être ça, là!
On explore la question. Donc, dans ce cas-là, on considère ça, OK, mais c'est pas totalement un État totalitaire. Est-ce qu'on peut parler de deux fascismes différents? Mm-hmm. Fait qu'aujourd'hui, c'est quoi le fascisme? J'ai pris les propos de Jason Stanley, c'est un professeur, auteur et spécialiste du fascisme qui a immigré en Ontario, entre autres, parce qu'il disait que les États-Unis étaient en train de virer fasciste et que lui, il allait... il a dit, entre autres, que le Canada était la nation multiculturelle la plus en santé, la nation multiculturelle démocratique la plus en santé au monde, et que pour lui, ça allait devenir un bastion aux fascistes. Donc, il est venu ici pour enseigner. C'est ses propos, tu sais, à un moment donné, on peut en prendre et en laisser.
Ouais, on se flatte le dos, là.
Et lui, entre autres, ce qu'il a dit, c'est que les États-Unis, c'est un État fasciste. Ouais. Il est parti des États-Unis parce que ça, il fait peur. Il dit ça parce qu'ils ont un autocrate au pouvoir, non contraint par la loi, qui est à la tête d'une des milices les mieux financées au monde, ICE. Mm-hmm. Il est à la tête d'une structure qui assure la suprématie blanche avec une politique xénophobe. Et il prône une approche impériale, on le voit avec ses propos sur le Canada, le Groenland. On le voit aussi avec ses actions sur le Venezuela, Cuba et l'Iran. Donc, une politique expansionniste impérialiste. Il essaie vraiment d'annexer ces pays-là. Le Venezuela, c'est devenu... il y a le contrôle du Venezuela. Oui, le Venezuela reste un pays à part entière, mais ils achètent les produits aux États-Unis et tout le... Ils ont pris le contrôle du pétrole là-bas. Cuba, ils l'ont asséché, donc il n'y a plus de pétrole qui va à Cuba. Ils sont en train un peu de faire comme une annexion. J'ai oublié le terme, là, mais c'est comme un proxy state, un État proxy aux États-Unis. Un peu ce qui se faisait avec la Russie, peut-être, pendant la Deuxième Guerre mondiale.
C'est quand même assez effrayant là, quand tu décortiques. Tu le décortiques en ce moment, puis je me dis, tu sais, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je vais avancer, mais l'actualité, c'est ça va tellement vite que là, tu viens de reparler de ICE, puis c'est tellement passé d'affaires dans les dernières semaines qu'on aurait dit qu'on n'entend même plus parler de ICE. Même si ce qu'ils font, c'est très problématique, là.
Ouais, ben ça, c'est un peu la façon que nos médias fonctionnent. On n'a pas le choix, tu sais. C'est pour mettre en lumière un événement, il faut faire des focus, mais à chaque fois qu'on fait des focus, on fait un cadrage, on laisse tout plein de choses en dehors de ce cadrage-là. Puis on vit dans un monde qui va très vite, donc les nouvelles s'enchaînent et on laisse beaucoup de choses en arrière, ce qui peut sembler, ce qui semble des fois un peu, pas déshumanisant, mais on sait quand même, on a déjà oublié, ça n'a pas de bon sens, les crimes qui se sont commis par rapport à ce groupe-là. Fait que, ouais, c'est ça, le, aussi le complexe des systèmes des checks and balances, qui est le système de poids et contrepoids aux États-Unis, qui est supposé d'assurer l'État démocratique aux États-Unis et sa bonne fonction. Ben, il est en train de s'effondrer. La séparation des pouvoirs n'a jamais été aussi floue aux États-Unis. Le judiciaire est plus conservateur que jamais. Ils sont en train d'instaurer une culture qu'on pourrait dire Trumpiste au sein même des institutions judiciaires. On l'a vu avec les jugements comme le renversement du jugement Roe v. Wade, qui est du Judicial Review. Je le dis peut-être mal. Je suis pas très bon pour parler en anglais. C'est vraiment pas ma force, mais en soi, c'est le c'est un des pouvoirs. C'est un des pouvoirs qui fait partie des poids et contrepoids, des check and balances. Donc, la Cour peut revoir certains jugements qui ont été faits selon comment la société se va en ce moment. Donc, tu regardes de revoir des jugements et dire, ah, est-ce que c'est encore d'actualité ce jugement-là qui a été fait. Donc, le jugement Roe v. Wade qui permettait, entre autres, le droit à l'avortement.
Ouais.
Et qu'il a été renversé. Donc, ça a permis aux États de choisir par eux-mêmes. Donc, c'était plus une protection fédérale. Donc, chaque État a pu choisir si c'était légal ou pas à partir de là.
C'est effrayant.
ICE, entre autres, revenir un petit peu à ça, il y a vraiment beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec la Deuxième Guerre mondiale. Et justement, là, Jason Stanley, le professeur, il fait beaucoup de parallèles avec l'Allemagne nazie. Et donc, lui, il dit qu'entre autres, on est dans la période de... séquestration, je pense que c'est ça qu'il disait. Donc, il existe en ce moment des camps de concentration ICE aux États-Unis.
Ça n'a pas de bon sens.
Oui. Et qui sont exclus des journalistes. Donc, les journalistes ne peuvent pas aller voir ce qui se passe sur ces camps-là. Il y a des journalistes qui se font arrêter, entre autres, pendant des manifestations. Évidemment, de couleur. Je parle ici de Don Lemon Wright et de Georgia Fort. Ils ont été relâchés. Entre autres, parce que la mainmise du judiciaire n'est pas complète. Puis ça, je pense que c'est une... Quand on parle de totalitarisme, ben ça se peut pas. T'sais, donc, il y a une nuance à faire de comme... Ah, ben les plus petites cours, donc les cours des États, eux sont encore... ils sont pas sous la mainmise du fédéral de Trump. Ce qui a permis justement le relâchement de ces journalistes-là. Donc, je m'étais laissé la note. Trump a été élu, mais Hitler aussi. Trump ignore, entre autres, les jugements de la Cour, des cours suprêmes et tout ça. ICE aussi, ils veulent nationaliser les élections. C'est illégal. Ils veulent abolir le droit de sol. C'est inconstitutionnel. J'ai perdu mon idée, mais... Il y a plus... Ah oui, il voulait revenir pour un prochain mandat.
Ouais,
c'est inconstitutionnel.
C'est illégal. Il a déjà fait ses deux mandats, puis ils m'ont dit que c'est bien en masse demain.
Donc, c'est à voir. Un des points qui soulève, entre autres, c'est qu'il dit c'est un pays fasciste. Il dit mais le fasciste, je ne sais pas à quel point il va être capable de durer après Trump. Oui, il a été capable de créer une coalition. Trumpiste basé sur son idéologie au sein des États-Unis. On le voit un peu partout dans toutes les facettes du pouvoir. Mais est-ce que cette coalition-là peut survivre à la mort de Trump? Il a quand même 79 ans.
Ouais.
Pendant combien de temps peut-il encore être dictateur, tu sais, dans un sens?
Ouais,
il n'est pas dictateur, il peut l'être dès les prochaines élections. Ouais. On verra bien.
Mais tu sais, je fais un peu l'avocate du diable là-dessus, mais comme, tu sais, oui, c'est vrai, je pense pas non plus que le fasciste peut survivre, mettons, à la mort de Trump ou s'il est plus réélu, mais c'est quand même effrayant de penser que malgré toutes les choses qu'il avait faites durant son premier mandat, ils l'ont quand même réélu. Puis là, en ce moment, on aurait dit qu'ils suivent la vague aussi, les Américains. Je trouve ça déplorant, là, littéralement.
Mais tu sais, il y a un gros travail de désinformation qui se fait aux États-Unis aussi. Ouais. Ils brûlent des livres. Je sais pas si c'est une image de qui brûlait des livres à peu près en 39.
Hitler! Mon guess!
Tu sais, c'est ça. Fait que... Il y a un réel travail de désinformer la société.
Mais les parallèles sont flagrants. Là. Ça fait froid dans le
dos. On peut retracer... Le cheminement est très similaire.
Ouais.
Et ce qui se passe avec ICE, ben c'est ça. Là, ça a été comme la prochaine étape. Puis on sait ce qui s'en vient après, mais dernière chose que je voulais explorer, c'est Noam Chomsky, grand personnage, entre autres dans la lutte contre, dans la lutte des classes et, comment dire, je dirais pas l'impérialisme, mais la domination des classes supérieures. Mm-hmm. Lui, il parle de néo-fascisme et son origine aux États-Unis. Fait que lui, en gros, il attribue ça dans l'Ouest à la violente lutte de classe du néolibéralisme, entre autres dans les 40 dernières années. Lui, ce qu'il dit, entre autres, c'est que c'est un capitaliste sauvage qui avait pour objectif d'appauvrir la classe ouvrière et populaire. Donc ça serait l'origine du fascisme. On est en 2021, là, je reprends ses propos. Lui, il disait que, comme exemple, qu'il y avait 50 billions, donc 1000 millions de dollars, qui s'est transféré dans la poche du 1%.
Ça, c'est fou.
On parle pas de monnaie, on parle pas de change.
Non,
là.
Non. Puis c'est une centralisation du pouvoir aussi. Là. Mm-hmm. C'est effrayant. Là.
C'est ça. Puis il dit que les salaires et les bénéfices pendant ce temps-là pour la classe ouvrière et populaire, ben, ça s'est stagné. Mm-hmm. Ça a créé dans la population de l'insatisfaction et une grande perte de confiance dans les institutions sociales, politiques. Et ça a entre autres poussé la société américaine vers une polarisation, une insatisfaction, une peur qui... Tout ça vers un conservatisme apeurant et réactionnaire. Ouais. Donc, c'est ça. Tout ce néo-fascisme-là qu'on voit aujourd'hui, c'est une guerre sauvage des classes, selon Chomsky. Donc, petite conclusion de la chose, c'est en gros la fonction qualitative qu'on donne au fascisme. Est par définition mouvante. Ça a commencé à désigner maintenant des régimes et des pratiques politiques postérieures au fascisme et qui sont a priori démocratiques. Mm-hmm. Donc, on a vraiment des États démocratiques qui ont des tendances fascistes.
Ouais.
Et c'est ça, on parle de... Donc, est-ce qu'on peut dire réellement que c'est du fascisme? C'est difficile à dire si on implique la notion de totalitarisme. Mais beaucoup de similitudes à faire. Donc, si fasciste n'est pas adéquat, néo-fasciste l'est définitivement.
Ouais. Mm-hmm.
Donc, très joyeux sujet ce matin.
On va regarder l'actualité justement de près là, en gardant tout ce que tu nous as expliqué en tête, Dieu, parce que c'était très intéressant. Merci d'être venu.
Ça fait plaisir.